Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue sur ce live spécial thématique lecture de l'hiver. Là, vous m'avez offert une thématique en or, hein, Virginie et Jenny. Donc, bonjour Virginie de Caen.
Bonjour, Madame
À
Deboche.
partir de maintenant, tu seras d'accord, je t'appellerai Virginie pour le reste du live. C'est vraiment trop troublant. Et bonjour Jenny Berger. Alors un grand grand merci à toutes les deux, hein, voilà, d'avoir accepté d'être présentes pour ce premier live de l'année. Ça m'a bien
Merci pour
motivée
l'invitation.
pour m'y remettre. Ça m'a fait très plaisir.
Merci pour l'invitation, surtout.
Oui,
Oh.
surtout.
Oh. Ben c'est bien, non, mais quand j'ai des invités,
Ah
hein, je les laisse parler comme ça. Moi, c'est très reposant.
ben voilà,
C'est pour
la
ça que
technique.
je... Alors, je ne sais pas si vous avez un œil sur le chat. Vous pouvez, en cliquant sur chat, voir un petit peu comme ça. Donc, il y a des personnes qui vous disent bonjour.
Oui, bonjour les gens.
Bonjour, bonjour. Voilà. Donc, alors, avant de rentrer dans le vif des romans, je veux dire, on va quand même peut-être présenter un peu les personnes. Et alors, sachant que là, on est un peu dans une sorte, c'est pas un triangle amoureux, c'est le triangle amitieux entre Virginie, Jenny et moi. C'est le triangle de l'amitié. Alors, je commence avec Virginie parce que, bon, Virginie, c'est une vieille histoire, faut quand même le dire. Ça va pas nous rajeunir, Virginie. Voilà. Mais nous nous connaissons depuis 2000, 2002, 2003.
2002, 2002, 2003,
Oui, dans ces eaux-là. Hein, voilà. Et en fait, voilà, nous nous sommes connus grâce à Rogue dans les Harry Potter. C'est ce qui nous a fait nous rencontrer sur un forum de la Warner Bros. Avant qu'on se fasse traiter de déviante et qu'on migre ailleurs. moi, j'ai une pensée un peu émue pour toi parce que tu m'as vraiment initiée. J'avais eu un petit déclic d'écriture avant de te connaître, mais j'étais incapable d'écrire plus de 2, 3 pages à l'époque, quoi. C'était ma grande limite. Et toi, tu m'as complètement ouvert des perspectives. Alors, à commencer par les fanfictions que je ne connaissais pas. Toi, tu écrivais des fanfictions sur Rogue. Voilà, je sors nos dossiers, hein, je suis désolée. Et pour la petite anecdote, Virginie avait fait un site internet, l'antre de Severus Rogue. Nous avons des membres ici sur le Discord qui, voilà, qui ont fait partie de cet antre, à commencer par Camille. Voilà.
À fait, je
Voilà.
confirme.
Donc voilà, cette époque où effectivement, ben voilà, nous nous sommes connus d'abord autour des fanfictions. Et là, au début, je me suis dit, oh, ça existe des fanfictions. Et puis après, en plus, ben, toi, tu m'as fait lire les tiennes et t'as un petit peu, t'avais mis la barre haute parce que t'écrivais déjà extrêmement bien à cette époque-là. Et les autres fanfictions que j'avais lues par la suite, je me suis dit, ah oui, c'est peut-être pas toujours aussi littéraire que ce que faisait Virginie, mais t'as même fait une biographie quoi de Rogue, tout y est passé,
Oui,
t'as été très loin. Et c'est grâce à toi que je me suis installée en Belgique.
oui.
Voilà, c'est toi qui m'as fait connaître la Belgique. Je suis tombée amoureuse de la Belgique à ton contact, au contact de ta famille. Je suis plus jamais partie depuis. Et aujourd'hui, nous sommes voisines.
Vraiment voisine en plus.
On sort sur la porte, on se fait coucou. Donc voilà, ça c'était la petite séquence émotion.
Oui.
Voilà. Et
Oui.
c'est pour dire aussi à quel point nos trajectoires littéraires se sont croisées. Là vraiment, moi ça a commencé avec les fanfictions. Je sais que mon tout premier roman, c'était pas La Place Miroir, c'était L'Entremonde. Ça a été ma première lectrice sur ce roman-là. Et moi, j'étais sur le point d'abandonner parce que je me suis dit, c'est trop dur d'écrire. Moi, je rêvais plus. C'est toi qui m'as complètement débloqué avec ton enthousiasme. Et je pense que là, Jenny, elle saura de quoi je parle parce que, voilà. Dans le genre lectrice enthousiasmante, Virginie, elle se pose là. Donc,
Okay.
voilà. Je pense que vous avez fait cette expérience-là toutes les deux aussi.
Oui, bien sûr.
Et. Et du coup, bah, Virginie, moi, j'étais toujours connue en train d'écrire. En fait, tu écrivais depuis plus longtemps que moi, même. Moi, à l'époque où c'était 2-3 pages, toi, t'écrivais déjà beaucoup plus.
Et je pense qu'en fait, j'ai toujours écrit. Enfin, depuis que je suis toute petite, bon, maintenant, avant, on est bien d'accord, hein, c'était des petits trucs, des pièces de théâtre dans lesquelles ma sœur devait absolument se mettre en scène. Puis voilà, on est passé par des très mauvais harlequins aussi. Et puis, j'ai fait une fiction. Et voilà. Et puis, c'est toi qui m'as ouvert la perspective des récits originaux, ben justement avec l'entremonde. Je me suis dit, mais oui, c'est vrai, je ne suis pas obligée d'écrire que des rock fiction. Et donc, voilà.
Mais on est d'accord qu'il y a toujours un rogue qui se cache quelque part dans nos histoires.
On ne peut pas y échapper.
Non, ben en tout cas, voilà. C'est, pour moi, c'était particulièrement du coup émouvant de pouvoir là t'inviter, t'avoir comme invité. Ça fait longtemps que voilà, j'attends ce moment où je pouvais enfin t'introduire auprès de mon lectorat. Et Jenny, ben toi, je t'ai connue. Si je me trompe pas, c'était aux Aliénales.
Oui, exactement.
Vraiment la première personne de la file qui était là.
Oui. Et j'étais tellement contente et tellement fière, je suis dit. La première. Ah, donc ouais, ça c'était un super souvenir.
Je t'ai pas très bien reçu, je sais pas pour les autres, mais je n'ai pas très bien entendu ce que tu as dit.
Ah, non, juste, non. Ah, et là ça va?
Là pour le moment je te reçois bien.
D'accord, donc je disais que effectivement c'était bien aux Aliénales et j'étais tellement contente parce que j'avais, en fait, aux Aliénales j'apporte la maison avec moi niveau livre, j'avais un énorme sac avec tous les livres que je voulais faire dédicacer sur la journée. Et du coup, mon mari, qui était venu avec moi, parce que c'est quelqu'un de gentil, et il s'était précipité, en fait, juste devant. Il avait un petit peu regardé, il avait vu ton emplacement, et il s'est dit, je me mets là. Et donc, du coup, on était les premiers, et c'était vraiment, vraiment chouette. Ouais.
Mais c'est vrai, hein, je me rappelle, toute première personne qui était là... Et c'était toi. Et à ce moment-là, tu n'avais pas encore les entraves de l'hiver qui étaient sorties, mais voilà, c'était quelque part dans les tuyaux à ce moment-là.
Est-ce que c'était déjà dans les tuyaux à ce moment-là? Non, pas encore.
Non, encore, pas encore.
Non, je ne l'avais pas encore. Oui, ça allait venir un peu plus tard. Oui, parce que j'ai envoyé les entraves de l'hiver à mon éditrice en janvier et nous sommes rencontrés aux Aliénales en octobre, donc, voilà, c'était aspirante.
Oh. Et du coup, bah, ce qui serait sympa, si vous êtes d'accord, c'est de raconter, bah, comment toutes les deux, Virginie et Jenny, comment vous êtes connues.
Bien sûr. Bah, en fait, c'est grâce à nos merveilleuses progénitures, puisque Virginie a deux enfants, moi aussi, et nos deux aînés sont dans la même classe depuis la maternelle. Donc, au départ, ça a été des bonjours polis, les rencontres aux anniversaires réciproques, parce que comme ils s'entendent bien, ils s'invitaient l'un l'autre. Et puis, une fois, on a passé un après-midi ensemble, et puis un après-midi jeu de société. Et puis, j'ai découvert que Virginie écrivait aussi, et du coup, on a commencé à échanger là-dessus, à parler de nos lectures, parce que faut savoir qu'on a, je vais dire, à 99% les mêmes goûts littéraires. Donc, à partir de là, c'était lancé.
Tout à fait. Il faut quand même revenir aussi sur le fait que c'est Christelle qui a débloqué quand même notre amitié aussi.
Ah bon?
Oui, c'est en fait. C'est à partir de là qu'on a fait plus que les bonjours polis aux anniversaires.
C'est vrai que j'avais publié sur Facebook et tu m'avais dit, oh, si tu veux, je peux les faire dédicacer. C'est une amie, je la connais. Donc voilà.
Oh, c'est trop mignon.
J'avoue.
Moi, je dis que d'émotions là. Et au final, c'est vrai que nous avons toutes les trois en commun d'avoir développé des amitiés, mais vraiment littéraires, quoi. Il y a vraiment un lien très, très étroit entre l'amitié et l'échange écriture, lecture. Hein, ça s'est vraiment entremêlé. Hein. Voilà.
Ah, complètement. Oui.
Vraiment, c'est devenu indissociable.
Et il y a Virginie qui nous disait qu'elle, elle se souvient qu'elle a toujours écrit. Et toi, Jenny, ton déclic d'écriture, hein, ça a été quoi?
C'est vrai que j'étais amenée à y réfléchir aussi. Et quand j'étais plus jeune, je faisais des petits dessins et j'inventais des petites histoires avec des petites bulles de dialogue, etc. Et puis, je dirais que j'ai été un petit peu en pause pendant quelques années et vraiment, les souvenirs les plus nets que j'en ai, c'était vraiment fin d'adolescence quand moi aussi, sans trop grande originalité, je me suis mise à la fanfiction. voilà, donc moi, j'étais aussi sur fanfiction.net et j'ai commencé avec des fanfictions Twilight.
D'accord.
Et
on va sortir tous les dossiers.
Mais sans gêne ni honte. Et j'ai continué avec des fanfictions Harry Potter. Et moi, j'étais plutôt du genre à faire le couple Drago et Hermione.
Oh là là, Virginie, mais comment est-ce que tu as pu accepter ça? Vous êtes restée amie malgré ça?
Je suis pas avec... Elle m'a pardonné.
Oh, c'est beau. Là, c'est de la hauteur d'âme, parce que franchement, Virginie, je sais quels étaient ses critères. Hein. Sur l'entre de Severus Rock, je me souviens, il y avait un règlement, ce qui n'était pas autorisé de publier comme contenu.
Ah oui, carrément.
Lily Rogue.
C'était pas autorisé.
Voilà. J'ai arrêté depuis.
Et en fait, ce qui est vraiment, j'ai envie de dire, émotionnant, c'est qu'au final, ben, vous avez là deux sorties qui ont coïncidé pour vous deux au niveau du timing. Ben là, donc, toi, Jenny, il y a des entraves de l'hiver aux éditions Plume Blanche ben, qui sont parues tout récemment. Là, c'était décembre, hein, c'était ça, hein, c'était vraiment décembre.
Oui, le 7 décembre, il est sorti, et le 28 décembre en audio.
Ah ben voilà, donc effectivement, là donc c'est bien aussi de le préciser. L'audio, tu connais le nom de la personne qui a prêté sa voix?
Certes. C'est-à-dire certes, je fais deux clics d'ordinateur, hein, c'est ça que je veux dire comme certes. j'ai Deloc en fait quand j'ai peur de dire des bêtises ou des quoi. Oui, c'est ça, Christophe Deloc.
D'accord, ok. Ah bah tiens, ça, je serais curieuse d'entendre la version audio des entraves.
Elle est vraiment chouette. Elle est vraiment chouette. Je ne sais pas pourquoi quand on m'a annoncé la merveilleuse nouvelle, on va pas se cacher. Je ne sais pas pourquoi je m'étais imaginé une lectrice en fait. Et au final, non, il n'y a pas de raison puisque bien qu'on ait des chapitres entre guillemets alternés entre les deux protagonistes, ça reste quand même l'histoire de Jack Frost. Donc ça avait effectivement plus de sens d'être lu par un homme. Et il s'en sort à merveille, vraiment.
Bon, bah ça c'est bon à savoir. Et donc tu as eu la sortie papier, la sortie audio en décembre, et là il y a Virginie qui elle, voilà, ça la sortie de son. Alors je dis son premier roman, mais je mets des guillemets à premier parce que Virginie, ça fait longtemps qu'elle écrit. Mais voilà, c'est le premier roman qui est édité, et là qui est sorti en version donc numérique la semaine passée, et la version papier c'est le 28 février. C'est bien ça Virginie?
Avec possibilité sur le site de la maison d'édition de déjà commander le papier.
Voilà.
Qui arrive.
Ah ben oui, attends, c'est ça que je vais faire tout de suite sur le chat, c'est de mettre les liens de vos maisons d'édition. Donc pour Virginie, c'est Bookmark. Voilà, comme ça. J'avais préparé moi les petites fenêtres. Hein. Comme ça, je mets sur le chat pour les personnes qui veulent aller voir. Et pour Jenny, c'est les éditions Blanches. Et j'avais mis, de toute manière, quand j'avais fait l'article, j'avais mis déjà les liens des maisons d'édition, j'avais mis vos liens de réseaux sociaux pour les personnes qui veulent voir un petit peu moins. Et voilà, comme ça, je mets des petits liens. Donc, oui, donc vous avez vraiment plus donc, des sorties qui sont vraiment toutes proches. Hein, là.
C'est ça.
Voilà, jumelles de plumes.
Oui, jumelles de sorties. un vrai bonheur qu'on peut partager ensemble. Surtout que, voilà, Virginie a quand même eu son contrat, a signé son contrat il y a 2 ans. Donc, c'est vrai que l'attente s'est révélée longue. Et on attendait avec impatience les premiers tours, les corrections, et puis les premiers visuels. Voilà, ça a été un petit jeu de patience, mais ça y est, et ça fait vraiment plaisir, quoi.
C'est vrai que j'attendais vraiment très impatiemment la sortie officielle du Royaume du Nord, la princesse étrangère, pour pouvoir faire ce live. Ça a été un peu l'élément déclencheur. Et là, c'est vrai que je me suis dit, ça le fait tout à fait. Tu as une thématique, du coup, un petit peu autour de l'hiver, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve en commun dans vos deux histoires, une ambiance un petit peu... un peu hivernal comme ça. Et je me suis dit, là, c'est vrai que là, ça me faisait un live de toute beauté. Vous m'avez vraiment dit, c'est bien, il y a deux nouveautés, deux livres, deux romans. Et en plus, voilà, c'est tout ça autour d'une belle histoire d'amitié. Donc. Si vous êtes d'accord, on va peut-être pouvoir parler un peu des romans.
Bien sûr, tout à fait.
Alors, la partie préférée, la question que je déteste qu'on me pose, résumer les livres. Moi, chaque fois qu'on me demande de résumer La Passe Miroir, je me décompose et je file le travail à quelqu'un d'autre, je suis nulle pour ça. Donc, on va quand même essayer de se prêter à l'exercice. Virginie, donc pour Le Royaume du Nord, La Princesse étrangère. Pour le résumé, est-ce que tu veux qu'on lise la quatrième de couverture ?
Mais tout à fait.
Allez, c'est pour ça. Alors, négocier ou courber les chines, se battre ou périr. Au jeu du pouvoir, seuls les plus habiles s'en sortent. La princesse Eugénie a été éduquée dans l'ombre de ses aînés, condamnée à un futur sans éclat. Mais lorsque leur voisin menace son royaume et qu'elle est renvoyée dans le Khaesar de Sibérion, pour y rencontrer leur souverain, aussi impitoyable et glacial que le pays qu'il dirige, Eugénie se retrouve propulsée sur la scène politique internationale. Devenue émissaire pour son île, elle va devoir se plier aux revendications de son hôte, tout en essayant de rester en vie. Car dans l'ombre, les complots et les jalousies se multiplient. Mais quand sa main est exigée comme garantie, les dés sont jetés. Si elle compte survivre et épauler son intraitable époux, Eugénie n'a d'autre choix que de s'endurcir. Je viens de voir ton message sur le chat. Mais oui, parce que moi-même, je sais que je n'aime pas lire tout ce qui est relatif à La Passe Miroir. À chaque fois qu'on me demandait de lire des extraits ou quoi, je filais toujours ça à quelqu'un d'autre. Donc moi, je comprends. Je triche un petit peu parce que je l'ai lu en entier, ce tome-là déjà. J'avais lu la première version. Et tu m'avais soumise la deuxième version que tu avais retravaillée, qui part exactement pareil que la première au début. Puis après, je me suis dit, ah oui, il y a de plus en plus de divergences.
C'est grâce à la connexion attentive de Jenny.
Ça, c'est vrai que c'est important de voir l'impact que les échanges peuvent avoir effectivement sur l'écriture et sur les histoires entre le premier jet et la version finale. D'avoir pu avoir des échanges. Petite pensée pour Danette qui est sur le chat. Coucou Danette. Moi je trouve, alors que cette quatrième de couverture, elle est assez habile parce qu'au final, le nom de l'époux n'est pas divulgué. c'est un choix en fait. Quand on lit le début de l'histoire, on peut comprendre parce qu'effectivement, Eugénie, quand elles se rend au royaume dans le Khaesar de Sibérion, et en fait, il y a le Khaesar à Kovan, mais aussi le frère, le prince Boran.
Oui. Boran, oui.
Donc, en fait, il y a une figure masculine. Oui.
Voici et donc,
pas spoiler.
Au début, donc, du coup, elle ne sait pas, elle est amoureuse de l'un, mais il y a l'autre aussi, et donc... Et donc voilà, en effet, le nom de l'époux n'est pas noté, notamment pour ça.
Oui, mais c'est bien, c'est un bon choix.
Un petit peu de suspense quand même. Et donc voilà.
Non, mais je me suis dit que c'était pas un choix si évident, parce que bon, c'est vrai qu'il y a quand même, à ce niveau-là, c'est que on sent qu'il va avoir un enjeu dont Eugénie va être, va être au centre de cet enjeu-là, mais au final, on ne sait pas trop, j'allais dire, à quelle sauce ça va être mangé.
Voilà, oui, elle arrive, elle est innocente, elle n'est pas armée hein, pour ce qu'elle va vivre là-bas, parce que c'est une petite... Elle vit dans une bulle, au fond. Enfin, une petite fille, on se comprend. Hein. Elle vit dans une bulle. Elle vient d'un foyer où elle est choyée. Elle n'a aucune épreuve, de vraies épreuves dans sa vie. Elle arrive dans ce pays glacial, déjà, alors qu'elle vient du chaud, hein, avec des personnages qui le sont tout autant. Et donc, voilà.
Alors, c'est très bien parce que sur le chat, il y a Kex qui pose une question que j'allais justement te poser. C'est justement sur le choix du prénom d'Eugénie, que Kex aime beaucoup, et qui te demande pourquoi tu l'as choisi. Et moi, j'ai une pensée qui m'est venue, mais je vais d'abord entendre ta version.
Ah, d'accord. Alors, j'ai pris Eugénie parce que c'est un nom très français, en fait. Et le personnage vient dans ce que moi, j'imagine, dans mon esprit, les Antilles françaises. Et donc, je voulais quelque chose de très classique, mais qui faisait en même temps très français. Voilà.
Et moi, en fait, l'association que j'ai eue, c'est la sonorité Eugénie qui fait un peu ingénue. Et ça va assez bien avec le personnage du début qui, au début... Enfin, on sent qu'elle a reçu une formation théorique. Vraiment, voilà, elle est formée. Théoriquement, elle est très, très formée. Mais en fait, c'est vraiment... C'est une petite jeunette, hein, et... Alors, je me suis demandé si c'était voulu, le fait qu'il y ait cette sonorité un peu ingénue.
Non, pas du tout, mais je vais la noter, comme ça je pourrais dire ça la prochaine fois.
C'est comme pour Torn qui signifie épine et que c'était pas du tout voulu, c'est très bien. Oui, et j'en profite justement, ça c'est bien pour préciser, que en fait, le Royaume du Nord, ça se passe dans un univers, alors on peut dire que c'est de la fantaisie, en ce sens que c'est pas notre monde, mais il n'y a pas de dimension magique dedans. C'est de la fantaisie réaliste.
Il n'y a pas du tout de magie, oui.
Et ça, c'est justement le parti pris qui est super intéressant. Mais il y a, enfin, c'est vraiment, ça évoque notre monde. Il y a beaucoup de fois de noms de contrées, de pays, ça sonne très très familier. On voit des références à notre propre géopolitique, en fait.
Oui. Oui, c'est un monde hein, où on a deux grandes puissances, avec deux grands continents en fait, et qui représentent deux grandes puissances, avec des petites îles éparpillées un petit peu partout, là au plein milieu des deux. Et oui, c'était voulu d'avoir quand même se raccrocher à cette réalité, qui était plus facile pour moi déjà. Et puis je me suis dit, pour le lecteur aussi, c'est pas mal d'avoir quand même un univers sur lequel il peut se raccrocher.
Oui, parce que du coup, effectivement, ça donne une impression de familiarité. À la fois, c'est étrange et familier en même temps. Oui. Et ça marche très bien. Ah, mais du coup, ça fait un fouet résumé, je me dis. Et pourquoi pour Jenny? Jenny, tu es d'accord aussi que je dise ta quatrième de couverture pour les entraves de l'hiver?
Il n'y a pas de souci.
Oh, tu peux la lire toi-même hein, si tu veux. Je laisse l'autrice disposer.
Ouais, pas de problème, c'est dans la meilleure confiance. Il n'y a pas de souci.
Bon, alors, comme ça, c'est pour faire vraiment le parallèle entre deux histoires. Donc, là, c'est pour les entraves de l'hiver. Jack Frost a un plan. Depuis des siècles, il n'existe que durant quelques semaines en décembre, veille au bon déroulement de l'hiver avant de retourner, contraint et forcé par le gardien, au sommeil. Sommeil avec un S majuscule, je précise. Mais pas cette année. Il compte bien l'affronter et faire basculer le cours de son existence à jamais. Mathilde, quant à elle, s'astreint à une vie bien ordonnée malgré une immense fratrie qu'elle tente de maintenir sur les rails. Oui, Jack Frost a un plan, sauf que ses pas croisent les siens, ceux de cette jeune fille au bonnet rouge, celle qui fera chavirer tous ses dessins. Ton, 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 ton. et Alors là, du coup, je pense que vous commencez à comprendre, hein, quand je lis les résumés, pourquoi j'ai choisi la thématique de l'hiver par rapport aux deux histoires. C'est que nous sommes en plein dedans. Et ici, pour les entraves de l'hiver, et ben là, du coup, il y a cette référence à Jack Frost. On est à mi-chemin entre le conte de Noël, la légende fantastique. Et là, du coup, c'est vraiment notre monde à nous, et même très précisément, ça se déroule à Strasbourg.
Oui, exactement. Dans les marchés de Noël, ambiance festive, ambiance sapin, ambiance neige.
Ah, là, je confirme que moi, j'ai connu un petit peu Strasbourg à cette période-là de l'année, et j'ai retrouvé les ambiances dans le livre.
Oui, j'ai vraiment essayé de coller au plus près, et c'est vrai qu'après avoir écrit la première version, j'avais eu la chance de pouvoir aller à Strasbourg à cette période-là, et donc de pouvoir affiner un petit peu le récit en fonction de ce que j'avais pu vivre sur place, quoi.
Ah, d'où cette sensation de vécu. Parce que on les sent, hein, on est dans la ville et on sent vraiment les odeurs de la ville, l'ambiance, on est dedans. Hein.
Tant mieux.
Je suis en train de voir sur le
chat. Je ne suis pas trop foirée.
Sur le chat, il y a Asie Raphaël qui dit « Chacun lutte à son niveau contre le réchauffement climatique ». C'est que à nous trois, c'est vrai qu'on a vraiment, comme me dit Mister Rupert, vous avez l'air d'aimer le froid.
Eh bien, pas du tout. C'est pas ma période préférée de l'année, mais bon.
Ah, mais peut-être que c'est une façon d'exorciser ça, justement.
Peut-être, oui.
Et je te pose la question de Kex, qui a posé la question pour le prénom de Jenny à Virginie. Pourquoi Mathilde, oui. Pour donc les entraves de l'hiver?
Voilà, parce que quand j'ai entamé le récit, j'ai eu envie de prendre l'histoire sous deux lectures. La lecture, voilà, que nous s'est apportée par l'histoire, et j'y ai ajouté plein de petites références, mais vraiment très subtiles. Je pense que ce sont même des références, voilà, qu'il faut connaître spécifiquement pour pouvoir les relever. Mais j'ai pas mal inséré, comme je disais, de références sur la religion catholique. Donc il y a pas mal de petits trucs qui parsèment le récit, parce que c'était Noël, parce que j'avais envie de faire une espèce de parallèle entre à la fois le côté nature et le côté religion, sans vouloir faire porter un quelconque message ou inciter quoi que ce soit, à simplement poser là et que les messages puissent éventuellement passer ou pas. Et pour revenir à Mathilde, donc Mathilde, il faut savoir que elle est la deuxième enfant d'une fratrie de 12. Voilà, donc là, on a déjà un premier petit 1, 12, et chaque enfant, en fait, porte un nom dans la poudre, soit tel quel, soit, entre guillemets, féminisé, puisque je ne pouvais pas faire que des garçons, enfin, je ne souhaitais pas faire que des garçons.
D'accord.
Et Mathilde, c'était ce qui, pour moi, se rapprochait le plus de Mathieu.
Ah. Oh, mais c'est génial d'avoir l'explication.
Voilà, donc c'est vrai que tout au long du récit, par exemple, dans toutes les épreuves que peut vivre Jack, etc., il y a toujours bien une petite référence plus ou moins subtile dans le récit. Maintenant, je les ai vraiment fait subtiles, je ne m'attendais pas à ce que des lecteurs au premier coup d'œil puissent s'y attarder ou puissent les référer.
Ah bah la première qui a lu le livre, bah c'est maintenant que j'ai cet éclairage-là, je me dis, mais bon sang, c'est bien sûr, mais ça m'est pas apparu de façon immédiate.
C'est ça, des petits easter eggs, voilà, plus ou moins.
Ah, mais c'est génial comme ça de voir, tout est pensé.
Oui, j'avais quand même pas mal travaillé le texte, ouais.
Bon. Si ça vous intéresse, ce serait de voir quelles ont été vos influences pour ces histoires-là, chacune. Savoir qu'est-ce qui vous a fait basculer dans ces histoires, quel était votre matériau finalement pour ça. Donc, Là, pour le moment, je fais une alternance, hein, Virginie, Jenny. J'arrête pas de vous passer le micro, symboliquement, de l'une à l'autre.
Pas de souci.
Pour Virginie, alors, je t'ai vu là il y a quelques jours, justement, pour discuter un peu de ça. Et tu étais d'accord, hein, pour que... en fait, pour Virginie, ce qui m'est apparu, c'est pas au moment où j'ai lu le roman, c'est le moment où j'en ai discuté avec Camille, justement. Et tout d'un coup, il m'est apparu en discutant du roman de Virginie, de me dire, mais oh, en fait, je vois des influences, des choses, des œuvres qui ont influencé Virginie, et c'est les mêmes que moi, ce qui m'avait influencé pour La Passe Miroir. Et en plus, c'est des œuvres que je ne cite jamais, généralement. Quand on me demande qu'est-ce qui m'a inspiré pour La Passe Miroir, je ne pense jamais à ça. Je pense toujours à La Croisée des Mondes, Miyazaki, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte, parce qu'en fait, quand je me suis installée en Belgique, tout un temps, j'ai été hébergée par la famille de Virginie. Et comme ça, on a passé un très long été ensemble. Toute une partie de cet été, j'ai une pensée émue parce que voilà, vous m'avez aidé à faire tous les travaux dans ma maison. Et puis le reste du temps, j'étais chez vous. Et nous avons vu des choses. nous avons fait du visionnage, des co-lectures à ce moment-là. Et parmi lesquelles, Angélique, Marquise des Anges. Donc, alors je précise pour qui ne connaîtrait pas que Angélique, Marquise des Anges, à la base, c'est un roman. Enfin, c'est même une série de romans de Anne Gollon, je crois.
Anne et Serge Gollon, oui.
Voilà. Ah oui, c'est un tandem. Oui. Donc, il y a les livres, et puis après, il y a une adaptation, qui date maintenant un petit peu quand même. Hein.
Oui.
Tu avais lu les livres, et tu connaissais les adaptations, mais tu m'avais montré du coup les adaptations.
Obligée à lire tous les livres, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Et donc, on a regardé les 5 films. On est tombé amoureuse évidemment du même personnage. Hein.
Voilà. effectivement, je vais bien le prononcer. Hein.
Geoffrey.
Cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois, je vais défendre son prénom alors que. Et c'est là que c'est troublant. Donc, je ne sais pas si vous, là sur le chat, vous connaissez Angélique Marquise des Anges. Mais juste pour les grandes lignes, c'est quand même l'histoire d'un mariage. Arrangé, forcé, entre une jeune fille et un mari qui a un physique pas évident avec une énorme balafre. Et finalement, voilà, ils vont beaucoup se rapprocher tous les deux, mais ce n'était pas gagné forcément au début. Et tout ça à l'époque de Louis XIV. Et moi, c'est ce que j'avais remarqué quand j'avais regardé les téléfilms. Je me suis dit, il y a un parallèle énorme entre le personnage de Geoffrey, donc le fiancé puis mari d'Angélique, et Nicolas Fouquet, le personnage, le surintendant des finances de Louis XIV, qu'ils ont eu des trajectoires un peu pareilles. Geoffrey est un personnage qui n'a pas existé historiquement, mais je pense qu'ils se sont vraiment beaucoup inspirés de ce qui est arrivé à Nicolas Fouquet, qui a été disgracié par Louis XIV, et dont Louis XIV était en fait extrêmement jaloux et qui l'a disgracié. Et en fait, moi je me suis rendu compte que dans La Passe Miroir, il y avait beaucoup de ce postulat de départ là, mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est en discutant du roman de Virginie que ça m'est revenu.
Et oui, c'est vrai. Ben mon oncle, je n'avais pas fait le parallèle avec La Passe Miroir. C'est parce que tout le monde a parlé l'autre jour, parce que sinon. J'y pensais pas du tout.
Comme quoi, il y a des trucs comme ça. Et ouais. Une fois que ça m'est apparu, je me suis dit, mais c'est évident. Et après, ouais. Je me dis, c'est là que je vois que... Alors, je vais dire qu'on est tombé dans la même marmite, mais c'est plutôt toi qui m'as fait tomber dans ta marmite, en fait. y a Camille qui nous a fait un dessin sur le chat, où on voit un rogue avec de la neige sur la tête. Je suis partout, même dans l'hiver. Merci Camille d'agrémenter le live avec tes dessins. Tu es en or.
Mais de rien.
et puis Virginie, pour tes influences, alors après tu me diras hein, s'il y en a d'autres évidemment, mais là c'est parce que on en a discuté tout récemment. il y avait aussi les Chevaliers du Zodiaque et toute la saison Asgard, en particulier, que nous avons regardé toutes les deux. Moi, je connaissais tout petit peu les Chevaliers du Zodiaque, mais juste le début et sans plus. Toi, vraiment, c'était cette saison-là que tu m'avais recommandé, le cycle d'Asgard. Et ben, là, pareil, après coup, je me suis dit à quel point ça m'a influencé pour la passe miroir. Et on retrouve comme ça, ben, dans ton propre roman, tout ce royaume du Nord pris dans les neiges et tout, avec cette cour un peu glaciale. Et je me suis dit, oui, alors si on fait un petit mix là de Angélique, Marquise des Anges et de Chevalier du Zodiaque, on commence à tenir une sorte de matière première.
C'est vrai.
Donc, à toi de dire, si tu as eu d'autres, évidemment, influences que ça.
Alors, oui, j'ai continué dans la vague livre, enfin dessin animé et tout, Anastasia, qui est un vieux dessin animé. Une chanson particulièrement d'Anastasia qui est Loin du froid de l'hiver. M'a beaucoup aidé en fait à écrire cette histoire.
Et alors, donc, ce qui est marrant, c'est que je l'ai écouté pas plus tard que ce matin.
Oh!
Mais comme par hasard,
c'est génial, c'est des
ça m'a donné envie de le revoir. Je me suis dit, tiens, mais pourtant, je ne m'attendais pas à ce qu'on en parle tout à l'heure aujourd'hui.
Ah, c'est voilà.
Tout est lié.
Oui. C'est une période. Moi, personnellement, c'est une saison que j'adore. Donc, c'est pas le premier livre que j'écris où ça se passe en hiver. Et c'est une saison que j'aime bien parce que je trouve qu'elle est, elle se prête vraiment à l'introspection, à s'obliger à rester les uns avec les autres, à se connaître. Et donc voilà. Je pense que le fait d'écrire le Royaume du Nord et le proposer en maison d'édition, c'est parce que j'avais justement cet amour de l'hiver et donc je me sentais pas trop inquiète de le présenter. Ouais, je me suis dit, allez, j'avais cet élan de courage parce que j'aime tellement cette période que voilà.
Et c'est vrai que dans ton livre, il y a des scènes ainsi où ils sont pris dans les neiges. Et les neiges, voilà, sont tellement envahissantes, on ne peut pas du tout sortir. Et donc, comme tu dis, toutes les personnes sont confinées à l'intérieur et doivent cohabiter les unes avec les autres pendant tout un temps.
Oui.
Et c'est vrai que ça fait des ambiances limite Hitchcockéennes. Parce que là, il se passe des choses. On se dit, on y reviendra après, mais voilà. C'est vrai que ça fait des très très chouettes ambiances.
Oui.
Et sinon, juste pour voir sur ce projet-là en particulier, si tu avais encore eu d'autres influences dont tu voudrais parler.
Non, pas spécifiquement maintenant. Enfin, comme on a dit au début, je lis beaucoup, beaucoup. Donc oui, il y a certainement plein de livres qui m'ont aidé, qui m'ont influencé, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, il y en a certainement énormément.
Ah oui, tu es livre-vore, ça je confirme.
Je confirme aussi.
Sur le chat, il y a Asie Rafal qui met « Ah, pour les huis clos, il faut de l'hiver ou une épidémie.
» Ah, c'est très on va bien. Éviter les sujets qui fâchent, non?
Non, nous n'allons pas aller plus loin. Mais j'ai trouvé la remarque très drôle. Et toujours du coup, pour rester sur les influences, Jenny, donc toi, là, c'est très clair dès le début, donc il y a la légende de Jack Frost. Et moi, j'allais personnellement te poser la question, c'est que moi, en fait, Jack Frost, je l'ai connu, c'est en regardant le film d'animation Les Cinq Légendes. Et en fait, je ne connaissais pas du tout ce personnage. Après, j'avais fait des petites recherches et je m'étais rendu compte qu'il existait indépendamment de ce film d'animation-là. Mais je ne savais pas. Et donc, je suis assez curieuse de savoir, toi, comment ce personnage est apparu dans ta vie? Qu'est-ce qui fait que, voilà, il est devenu le personnage de ton propre roman?
Eh bien, un peu comme pour toi. Je l'ai découvert avec les dessins animés que j'avais beaucoup aimé. Et puis, on va pas se le cacher, pour ceux qui l'ont vu, le personnage est quand même bien choupinou, hein. moi, je l'avais beaucoup aimé. Donc, du coup, je m'étais un peu aussi intéressée à ce personnage-là en particulier. Et découvert qu'il s'agissait d'un personnage de folklore, mais que, en tout cas, pas de, enfin, rien n'a sorti d'Ernst Königspeter. Il n'a pas de conte, d'histoire à proprement parler. C'est un personnage de folklore, mais il n'a pas d'histoire comme pourrait l'avoir, je ne sais pas, Rumpelstiltskin ou La Belle et la Bête ou ce genre de choses, quoi. Donc, j'ai vraiment pu prendre ce personnage-là et en faire ce que je voulais, et c'est ça qui m'a donné envie finalement de lui écrire une histoire qui me plairait. Et puis l'occasion a été un peu toute faite quand une maison d'édition avait proposé un concours. C'était une romance fantastique, Donc je voyais beaucoup des idées sur des vampires, des loups-garous et ce genre de choses. Et j'ai tendance à bien aimer essayer autant que possible de me démarquer ou essayer de faire un petit peu original, parce que voilà, reprendre des idées ou quoi qu'est-ce, c'est quelque chose qui se fait et il n'y a pas de souci, mais c'est de toujours trouver l'angle qui sera un peu différent, qui apportera une touche un peu différente. Et donc je m'étais dit, romance fantastique, Jack Frost, moi il m'a toujours beaucoup intriguée, c'est parti, allons-y. Et donc c'est comme ça que j'ai eu envie d'en faire le maître de l'hiver, parce que voilà, a priori, dans le folklore, il s'agit d'un personnage un peu arsouille, qui s'amuse à faire des bourrasques de vent, etc. Mais rien de plus. Moi, j'en ai fait un maître de l'hiver. Il coordonne la saison pendant quelques jours en décembre et retourne ensuite assez frustré au sommeil et décide l'année où on le découvre dans le livre qu'il veut enrayer ce processus et qu'il veut mener sa vie comme il l'entend et comme il le désire. Donc voilà, c'est vrai que je vais pas mentir, j'ai quand même été assez influencée par le dessin animé. On lui retrouve les cheveux blancs, les pieds nus, pas la canne. Je voulais quand même pas. J'aurais vraiment eu l'impression de faire du copier-coller en ajoutant la canne. Il l'a pas, mais il a aussi ce côté un peu à cheval entre enfantin, boudeur, un peu égoïste aussi. Pas que bien sûr, puisqu'il lui fallait une marge de progression, mais voilà, Jack Frost, il a son caractère et il est assez égoïste. Et en fait, ce qu'il a, c'est qu'il a un objectif et il le désire tellement dans ses tripes que quelque part, il se dit, s'il y a quelques dommages collatéraux, je pourrais m'en arranger. Et voilà, maintenant, il rencontre Mathilde et les choses évoluent peut-être ou pas.
Moi, il y a une réplique qui m'a beaucoup fait rire dans ton roman, c'est quand Jack Frost dit « Peter Pan a tout appris de moi ».
Oui.
J'ai vraiment adoré, je me suis dit « Ah tiens !» C'est vrai que le parallèle ne m'était pas venu spontanément, puis après je me suis dit « C'est vrai qu'il a un petit côté Peter Pan, mais pas que ».
Non, pas que, c'est non, vrai. Non, et puis pour le Peter
pas,
Pan...
C'est après qu'on cherche bien, c'est pas le même tempérament, c'est pas le même caractère, et c'est pas du tout les mêmes objectifs de vie.
Non. C'est vrai que j'avais eu envie de faire le petit clin d'œil par rapport au fait de regarder à travers les fenêtres, ce genre de choses. J'avais envie de faire. Non, ce que j'ai fait assez bien dans ce roman-là aussi, c'est quelques petites références à Disney, parce que voilà, moi je suis une grande fan de Disney. Et oui. Ça a bercé mon enfance, ça m'a imprégnée plus que tout ce que je pourrais l'imaginer. Et des fois, je remarque quand j'écris. Et il y a une espèce de réplique toute faite qui sort et je me rends compte que c'est un dialogue d'un dessin animé, par exemple. Donc, des fois, quand ça me venait à l'esprit, alors à ce moment-là, je faisais en sorte de mettre en avant la référence au dessin animé. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir, par exemple, une petite touche d'Aladin ou ce genre de choses.
Oui. Alors, c'était pas Disney, mais il y a aussi une petite référence au Grinch. Ça, j'ai beaucoup aimé.
Oui, voilà, oui.
Le Grinch, ça m'a bien parlé.
C'est vrai.
Mais voilà, c'est vrai que du coup, j'étais curieuse, effectivement, sur cette légende de Jack Frost, parce que moi, je connaissais pas du tout avant le film d'animation. Là, c'est DreamWorks, si je me trompe pas, qui a fait cette adaptation-là, des 5 légendes. Mais de se dire que c'était pas sorti de nulle part. Mais en même temps, c'est pas connu. Enfin, en tout cas, en francophonie, c'est pas particulièrement connu. Et finalement, c'est sympa d'avoir ta version à toi.
C'est vrai. Et en plus, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'entre auteurs, il y a dû y avoir un espèce de je ne sais pas, d'esprit collectif ou j'en sais rien. Mais c'est vrai que ici, récemment, Il y a eu pas mal de, enfin, il y a eu plusieurs titres qui sont parus dans diverses maisons d'édition et qui abordaient leur propre version de Jack Frost, quoi.
Ah bon?
Oui, il y a eu ben notamment de Saxus qui les Virginie, les saisons de la tempête.
Ouais.
Les saisons de la tempête. Il y a eu aussi MXM. Avec MXM. Alors je ne sais pas si c'est vraiment Jack Frost, mais c'est en tout cas un personnage de aussi de l'hiver. Et il me semblait qu'il y en avait un autre.
Oui.
Et là, aide-moi. Sur le chat, il y a Kira Mizuno. Coucou Kira. Qui disait que en tout cas le film d'animation Les Cinq Légendes est adapté des romans jeunesse de William Joyce.
Ah, d'accord, je ne savais pas.
Et ben voilà, comme mais non mais dans le même temps, Cécilia, elle sait tout. Hein. Elle connaît tout le monde, elle sait tout.
D'accord, d'accord.
Ah, nous passe un lien. Oh, merci.
Ouais, merci. Cécilia.
On ira
c'est
voir.
Gentil, hein.
Oui, et d'ailleurs aussi pour ton livre, Jenny. Moi, donc, quand tu me l'as passé, tu m'as aussi passé le marque-page. Et sur le marque-page, il est hyper charmant. Parce que d'un côté, sur un côté recto, on a donc le personnage de Jack Frost, une silhouette comme ça de profil. Et quand on le tourne, côté donc recto et verso, bah, c'est Mathilde. Et j'ai trouvé que c'était super bien pensé, ce marque-page. Il est hyper. Et quand on s'en sert tout au fil de la lecture, je sais pas, ça va très bien avec l'histoire qui se déroule.
Mais
en même
oui.
temps. Et de le tourner comme ça en plus. Oui. Un coup, c'est comme la narration est en alternance. Un coup, c'est Jack Frost. Un coup, c'est Mathilde. La narration n'arrête pas d'alterner. Et ça permet voilà, d'avoir à chaque fois leur... Et de voir leur évolution l'un en contact de l'autre.
Exactement. Mais c'est vrai que l'illustration, à la base, je l'avais commandée pour moi à une super chouette illustratrice espagnole. Son nom sur Instagram, c'est Calice Dissé. Et voilà, j'avais juste envie en fait d'avoir une image d'eux parce que je les aime énormément. Et je l'avais montré à mon éditrice. Et en fait, elle m'a dit, écoute, demande-lui combien ça coûterait pour pouvoir l'exploiter. Et c'est comme ça qu'en fait l'image s'est insérée dans le livre. Donc il se trouve en noir et blanc vraiment tout à la fin du récit. Et qui s'est retrouvé sur les marque-pages. En couleur, je l'avais mis en entier aussi sur mon compte Instagram. Et voilà, et c'est comme ça qu'on a un petit peu suivi. On a la même chose avec le maître du printemps. Mais c'est vrai qu'elle a vraiment réussi à reproduire une ambiance que je trouvais douce, romantique, tendre. Et j'aimais beaucoup les silhouettes. Je n'avais pas envie de figer, en fait, visage, ni pour l'un ni pour l'autre. Pour laisser vraiment la possibilité aux lecteurs de se les imaginer comme ils les entendaient, mais en ayant quand même une silhouette, quoi. Donc, ouais, c'était vraiment parfait.
Le fameux bonnet rouge de Mathilde.
Oui, j'avais insisté sur les petits détails. Il y a même son collier, il y a ses gants, il y a son petit bonnet. C'était fureur, ouais.
Il y a une histoire toute douce, hein, ça. C'est du miel, hein, quand on dit un texte comme ça, on a l'impression de prendre du miel. Oui, là, du coup, c'était par rapport aux influences d'écriture. Donc, bah, pour toi, Jenny, c'était particulièrement donc les gens de Jack Frost. Et t'as dit aussi hein, que donc, il y avait des petites références ça et là à Disney. Si jamais tu as d'autres influences pour ce roman-là que tu souhaites citer, n'hésite pas.
Consciemment, pour le reste, c'est vrai que j'ai pas mal, je veux dire. Plier dans l'imagination et comme je l'avais dit un peu plus tôt cette espèce de parallèle un petit peu avec la religion catholique pour les filles voilà je veux dire en comme je voulais absolument les insérer ben il fallait que ça corresponde dans l'histoire donc c'est ça aussi qui a pu m'aider à avancer dans l'écriture quoi et de générer des situations qui s'y collaient quoi.
Alors là, j'étais en train de me poser la question. Je me dis, est-ce que je voulais parce que plein de questions que j'ai encore envie de vous poser. Le temps passe. J'ai très envie pour le moment, c'est en fait de continuer, de plus parler encore des romans. Et si on a encore le temps à la fin, ce sera juste si on peut avoir un petit mot sur vos maisons d'édition différentes, au moins avoir une petite évocation par rapport à ça. Mais là, je dis, tant qu'on est dans l'histoire, j'ai envie de d'être battre le fer tant qu'il est encore chaud. Tant qu'il est encore froid. Ce sont des histoires. Alors ça, c'est ce que j'avais pensé. C'est vraiment, vos histoires, elles ont ça en commun. On les lit au début, on a très 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 froid. Et puis on a très 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 chaud. Alors, là, je vais à nouveau faire une alternance Virginie-Jenny. Pour cette dimension-là, justement, alors Virginie, donc on l'a évoqué là avec le royaume, enfin Kaïsa, tant que je prononce ça bien, que je ne me trompe pas, le Kaïsa, c'est comme ça que tu dirais ?
Oui, c'est comme ça que je le dirais.
Ah ben ouais. Le Kaïsa de Sibérie, et qui est là où en plus la chaleur, la chaleur de l'île d'où vient Eugénie, met encore plus en contraste. L'histoire, elle débute vraiment au moment où Eugénie arrive à Sibérion. Mais il y a toute une partie du roman où on retourne sur l'île Antille. Et là, on a très très chaud. mais voilà, je veux dire, quand même, l'action principale se déroule finalement à Sibérion. Et c'est là que c'est le plus tendu. Et moi, j'ai beaucoup aimé... il y a un Sèche qui nous dit qu'il y a de l'écho. Alors ça, c'est peut-être... Moi, j'ai mes écouteurs et mon micro. On m'entend peut-être en écho chez l'une de vous deux.
Ah, j'ai des écouteurs.
Virginie, j'ai pas d'écouteurs. Tu es la traîtresse. Une tempête d'écho. Merci, Yael. Il fallait la faire, celle-là.
Bon. Bien joué.
Je continue, mais si c'est trop gênant, Ah, mais c'est vrai que je m'entends en écho maintenant.
Mais je ne parle pas, ça ne peut pas être de ma faute.
Si, c'est parce qu'en fait, je t'explique. Comme tu n'as pas tes écouteurs, ça veut dire que ton haut-parleur, quand moi je m'exprime, ça rentre dans ton micro aussi. Donc on entend moi et on entend moi à travers toi.
Et si je baisse le son, ça va mieux ?
Ben, je ne sais pas. Ou alors il faut. Provisoirement.
Pour le moment, en tout cas, oui, ça va bien.
Oui, attends, je coupe ton micro si tu veux.
Oh, je suis désolée. Je suis en train de muter mes invités, mais quelle honte. Alors, je fais mon petit monologue et puis après, je te passe la parole. Donc, oui, j'étais en train de dire qu'il y avait aussi ce côté très intéressant, je trouvais, c'était de faire de Eugénie. En fait, c'est une métisse, vraiment, donc un personnage qui est très très métissé. Voilà, on sent vraiment, voilà, elle est née sur une île et ça l'accompagne vraiment partout, cette naissance-là. Et voilà, c'est un peu le choc des civilisations et le choc thermique en même temps lorsqu'elles seront à Sibérion. Et donc, toute cette dimension très 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 froide, hein, en plus on en a parlé tout à l'heure avec... ces huis clos qui se déroulent avec donc de la neige qui est pressée sur les portes, qui fait que les gens ne peuvent vraiment pas sortir toute une période de l'année. Ça oblige les personnages à cohabiter et à mieux se connaître, faute de se rapprocher, mais il peut y avoir aussi des rapprochements. Voilà. Et à côté de ça, c'est l'histoire quand même aussi d'un mariage arrangé. Et là, avec, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, cet enjeu avec deux frères. Kovan et Boran, et c'est là quand je disais que parfois l'histoire elle peut devenir très 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 faude. Alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est pas une histoire érotique, mais je veux dire, il y a quand même y a cet aspect là quand même de l'amour et de la sexualité, hein, ça fait partie de l'histoire, et avec cette attraction, fascination, répulsion, enfin tout ce jeu là entre ces deux frères qui ont deux personnalités très très différentes. Je pense que ce sera un secret pour personne de savoir moi lequel j'ai préféré dès le début. Mais, je ne veux pas trop en dire et pas spoiler l'histoire. Mais c'était juste pour par rapport à cette thématique effectivement froide et chaude. Et que je trouvais que c'était intéressant à mettre en parallèle justement avec l'histoire de Jenny, où là, pareil, donc on est dans un environnement du coup très hivernal avec ce Strasbourg en période de Noël. Et bah, la relation naissante entre Jack Frost et Mathilde. Et c'est là que je m'étais dit, bah, si vous étiez d'accord toutes les deux, on pourrait peut-être lire un extrait.
Bien sûr, avec plaisir.
Voilà. Alors je m'étais dit, voilà, ce qui serait sympa, c'est de lire un extrait. Moi, j'ai choisi, là, pour le livre de Virginie, La princesse étrangère, je me suis dit, l'extrait, c'est le moment où Eugénie va faire la connaissance de Kovan, donc le Kaiser, sa première rencontre avec lui, sachant que le frère n'est pas loin, là aussi. Donc, j'ai dit, c'est une scène qui permet déjà de bien rendre ça. Donc, voilà. Alors, attention, je ne suis pas une conteuse professionnelle. Voilà, je vais lire de mon mieux. Virginie, tu ne souhaitais pas le lire toi-même, hein? Évidemment, si elle a son micro coupé.
Elle est en train d'écrire.
Elle est en train d'écrire. Non, non, c'est juste pour savoir.
Avant à mon avis, elle va se dire « Non, mais ça va
!» C'est mieux d'extrait. Bah, Virginie, je vais lire ton extrait. Alors.
C'est parti.
Oui, vas-y, lis.
Ah, j'ai ta bénédiction. Le chambellan attend les invités à la porte, accompagné par deux gardes. Il fait une révérence si basse que Jenny se demande si son nez a touché le sol. Elle ressent encore cette impression désagréable lorsqu'il la regarde. Des précédents à l'intérieur de la salle, il clame à l'assemblée « Son Altesse Sérénissime !» Quand elle pénètre à son tour dans la pièce, Eugénie ne peut retenir une grimace et ses sourcils se froncent. Décidément, ce premier conseiller d'un souverain multiplie les impairs. Notre accueil vous déplaît, madame ? Eugénie se tourne vers la voix brisée qui l'apostrophe si cavalièrement. Un homme grand, trop grand, la domine, à quelques pas d'elle. Son regard noir est insondable, son visage est dur. Les vêtements qu'il porte sont luxueux et son allure altière suffit à le trahir, le Kaiser Kovan. Eugénie l'imaginait plus vieux. Les rides sévères de son front ne peuvent cacher la jeunesse de ses traits. Il doit à peine dépasser les 30 ans. « Non, monsieur, » répond-elle effrontée. « Mais voici que pour la seconde fois depuis mon arrivée, votre entourage insulte le rang de mon père et celui de l'héritier légitime d'Antille. » Derrière le souverain, Boran pâlit, l'inquiétude transpirant à chacune de ses inspirations. « Vraiment, » ironise le Kaiser de sa voix rocailleuse. L'immense silhouette approche davantage. Un silence pesant recouvre la salle à manger d'une chape de plomb. Les convives retiennent leur respiration. Le prince suit, traînant visiblement les pieds. Eugénie lève les yeux pour rencontrer le regard glacé qui l'étudie. « Madame, » reprend-il, « veuillez pardonner les ignares qui me servent de sujet. » Son sourire carnassier est terrible. Sans cesser de la dévisager, il s'empare des doigts tremblants d'Eugénie et leur imprime un baiser froid. « Votre grâce... » Pardon, excuse-moi. « Votre grâce... « Votre grâce, » chuchote-t-elle comme à bout de souffle. « Dans mon pays, c'est ainsi qu'il convient de me nommer. » La main brune d'Eugénie, toujours prisonnière des doigts gantés, Kovan gronde. « Je m'assurerai que les dignitaires et le peuple de Sibérion la prennent. » La princesse a la gorge sèche et elle est soulagée lorsque le souverain la relâche. Cette première rencontre a de quoi la déstabiliser. Après tout, les légendes des vieilles nourrices ne sont peut-être pas dénuées de vérité. Les rois du Nord sont terrifiants. Celui-ci pivote vers Boran, tandis que Jenny reprend contenance en frottant ses mains moites contre le tissu de ses hanches. « Qui t'a autorisé à disposer de notre invité dès son arrivée au port de Slotov ?» La menace couvant sous le ton volontairement bas est tangible. « Je... nous... » balbutie gauchement le garçon. « La garde royale antillade a cru un enlèvement, condamne de Kaiser. Es-tu donc aussi stupide que tu en as l'air ?» Et c'est là qu'on voit à quel point la relation entre les frères est... tendu.
Il est tout prêt pour écrire.
C'est juste pour Eugénie, je vais donner la voix du casse. Ah, je crois qu'il y a Cécilia qui, ça y est. Cécilia, je pense que tu vas aimer. Donc, et là, du coup, c'est le parallèle.
Je pense que tu me connais trop bien.
Des fanarts, des fanarts.
Oh oui. Non, d'abord, il faut lire, madame. Il y a un ordre.
On met tu lis cette nuit.
Voilà, on va y remédier. Oui, on va y remédier.
Alors, c'est-à-dire que je travaille à 7h30 demain matin. Alors non, cette nuit, je vais dormir.
Allez, je te ferai la lecture pendant ton prochain Twitch. Pendant que toi, tu dessineras, moi, je te lirai.
Ah, c'est un bon plan, ça. Je veux bien.
Ok. C'est noté. Allez, et du coup, pour faire le parallèle maintenant, c'est avec, dans Les Entraves de l'hiver, la première rencontre de Mathilde avec Jack Frost. Donc Jenny, si tu es d'accord, je lis ton extrait.
Oui, bien sûr. Pas du tout même ambiance, pas du tout même genre.
Mais on verra qu'il y a quand même un point commun. Dehors, la nuit s'était confortablement installée dans les rues de Strasbourg. Les lampadaires éclairaient sporadiquement les trottoirs. Mathilde remonta la fermeture éclair de son manteau jusqu'à son menton, enfila ses gants rouges et enfonça son bonnet de la même couleur sur sa tête pour la préserver du petit vent piquant qui s'était levé. Alors qu'elle s'éloignait du bâtiment, son attention fut attirée par une silhouette. Devant la fenêtre de la chambre d'un résident se tenait un jeune homme qui observait l'intérieur sans vergogne. Mathilde fronça les sourcils, partagée entre l'indignation et l'appréhension. Qui donc avait pu évoluer dans la propriété sans être inquiété? Qui était ce pervers qui prenait un malin plaisir à épier les seigneurs à leur insu? Énervée et bien décidée à en découdre, Mathilde se rapprocha de l'individu. À mesure qu'elle s'avançait, elle distingua ses cheveux blancs atypiques et fut surprise de constater qu'il était pieds nus. Hé, que faites-vous là? L'interpella-t-elle à une distance raisonnable. Mathilde dut se répéter pour que l'intrus daigne reporter son attention sur elle. Il planta ses grands yeux bleus dans les siens et cligna des paupières à plusieurs reprises comme s'il sortait brutalement d'un songe. « Je peux savoir ce que vous faites ? » s'énerva-t-elle. Le voyeur, visiblement perdu, continua de la fixer puis regarda derrière lui, comme s'il s'attendait à y découvrir quelqu'un. « C'est à vous que je parle. Vous avez de la famille ici ?» tenta à nouveau la jeune femme. « Tu me vois ?» s'enquit finalement son interlocuteur. Mathilde, excédée, leva les yeux au ciel. « Je te vois, je t'entends même, et je te demande pour la quatrième fois ce que tu fiches dans cette propriété. C'est une maison de repos. Les visites sont terminées, tu n'as rien à faire là. » Puisqu'il voulait se la jouer grossier, Mathilde était également passée au tutoiement. Elle essaya de déterminer s'il se moquait d'elle ou s'il était aussi perdu que son visage semblait l'indiquer. Il portait un t-shirt blanc, dont la seule vue de l'étoffe légère fit frissonner de froid la jeune femme, et un jean classique. Était-il un sans-abri ? Bien qu'un soupçon de culpabilité l'envahît à cette idée, cela n'enlevait rien au fait qu'il n'avait pas à rôder près des fenêtres des résidents. « Est-ce que je peux t'aider ? » essaya-t-elle encore. Toujours perdu, le jeune homme continua de cligner des paupières comme s'il s'agissait de la dernière fonction en service de son corps. Et soudainement, il disparut. Mathilde poussa un cri et recula de quelques pas. Nerveuse, elle tourna sur elle-même, scrutant les environs baignés de nuit à la recherche de cette tignasse blanche qu'elle aurait juré ne pas avoir rêvée. Que venait-il de se produire ? Sans demander son reste, elle se précipita loin de la maison de retraite jusqu'à son taudis d'appartement, bien décidée à chasser cet étrange moment de son esprit. Spoiler alerte, elle ne l'a pas chassé ce moment de son esprit.
Merci pour cette magnifique lecture.
Je passe ça tous les jours, hein, et ça pour moi je le fais jamais. Hein, donc. C'est vraiment parce que voilà, c'est des textes que j'ai lus, que j'ai appréciés, donc là je me l'autorise. Mais du coup, ce qui était marrant de mettre en parallèle entre vos deux romans, c'était le fait qu'en fait, ce sont deux ambiances assez différentes, à part le fait que ce soit très hivernal. Mais en dépit de toutes les différences, il y a au moins ce point commun, c'est que cette première rencontre, première impression masculine n'est pas excellente.
C'est vrai, c'est vrai.
Et donc, forcément, ça appelle une suite.
Hein. Juste un petit. Jack n'est pas un pervers. Hein. Il ne faut pas s'arrêter à ça.
Et moi, je précise. Explication en pervers, même. Gérons ton fil. Voilà, je vous ai tout balancé. Comme ça, c'est fait.
Il y a une explication.
Il y a des extraits comme ça, on les choisit, mais en fait, hein, ils sont malaisants. Hein, quand il n'y a pas la suite après. On n'a pas l'avant, on n'a pas l'après. Hors contexte, c'est quand même troublant. Non, lisez quand même l'histoire pour voir. C'est si bien, Christelle. Je vends très bien les livres des copines.
C'est vrai que c'est une très belle mise en avant.
Oh. Bah, en attendant, le parallèle qui m'était quand même venu entre vos deux romans, c'était le fait qu'il y avait quand même cette atmosphère de conte, mais pas si féerique que ça, en fait. Mais il y a quand même, voilà, c'est un peu les allures d'un conte. Mais dans un cas comme dans l'autre, là je vais aborder un petit peu ça avec vous, c'est voilà, c'est pas des contes de fées vraiment, ça peut être difficile aussi. Alors pour Virginie, dans le Royaume du Nord, hein, là je prends vraiment le titre général hein, de la série parce que je pense que c'est vraiment propre à tout l'ensemble de la série, pas seulement le premier tome, c'est que c'est très réaliste. C'est vraiment, en fait, c'est une histoire, encore une fois, donc c'est de la, voilà, c'est de la fantaisie dans ce sens où ça se passe dans un monde inventé, mais en fait, c'est très réaliste, non seulement en termes politiques, donc politique de ce monde-là, mais qui aussi, voilà, on sent qu'il y a beaucoup de références à la géopolitique de notre propre monde. Tous les ambiances de cours, hein, toutes les stratégies où chaque phrase prononcée, elle est. Rien n'est prononcé à la légère, en fait. Hein, vraiment, chaque mot est pesé avec soin, parce qu'on peut très vite se faire des ennemis. Et d'ailleurs, Eugénie, à ce niveau-là, malheureusement, est excellente. Elle se fait des ennemis assez rapidement, et pas qu'un peu. Et comme je le disais un petit peu tout à l'heure aussi, c'est une histoire aussi adulte. Hein, je veux dire, tu abordes aussi la sexualité. Alors voilà, ça occupe pas toute la place, hein, mais voilà, quand tu en parles, voilà, tu en parles quoi. C'est pas juste suggéré, c'est que donc et ça, moi, c'est des dimensions que j'ai vraiment appréciées à la lecture personnellement. Justement, ces côtés parfois durs, hein, le conte de fées dur en fait. Hein.
Oui, ben oui, comme tu dis, hein, de toute façon, je voulais un côté réaliste, donc voilà. C'est pas juste un petit bisou et tout va bien et qu'à la fin des jours. Donc je voulais quand même aborder ces points-là parce que, comme tu le dis, Eugénie est très très innocente et elle ne se rend pas bien compte de ce qu'on peut attendre d'elle à tout niveau. C'est une princesse. Son but, c'est de servir son pays. Et malheureusement, dans ce monde-là, pour une princesse, c'est servir de monnaie d'échange, d'être utilisée. Et voilà.
Oui, et c'est vrai que on peut avoir l'illusion au tout début de l'histoire de se dire « Ah, c'est une jeune fille qui vient comme ça d'une maison, enfin, d'un foyer très, très choyé, papa, maman, les frères, les sœurs. » On a l'impression comme ça, c'est très, très chaleureux, qu'elle était très choyée. Mais en fait, on se rend vite compte que en fait, la dimension politique prévaut finalement. Et il y a des relations très dures aussi avec les parents, mais aussi avec la fratrie.
Oui, oui, parce que voilà, ils sont. Mais justement, il y a toute cette dimension politique. Et le pays passe avant tout le reste. Le pays et les ambitions passent avant tout le reste.
Et c'est vrai que Eugénie, finalement, c'est un peu une sacrifiée.
Oui. Mmh. Elle a fait, oui, voilà. C'est la troisième fille, hein, celle qu'on n'attend pas, on ne sait pas quoi en faire. Elle est censée être utile, mais comment? Et donc voilà, on la ballotte d'un coin à l'autre et quand quelqu'un voudra bien d'elle, en fait.
C'est vrai qu'elle sert pas à quelque chose. Au début, elle-même, elle s'est complètement identifiée à sa fonction d'ambassadrice. Ça, c'est vraiment, c'est ainsi qu'elle se forme et qu'elle se dit, voilà, ça va, ma vie, ça va plutôt être ça a priori, avoir cette vocation de, voilà, conclure des accords et d'être plutôt présente sur la scène internationale, mais vraiment dans un second rôle, quoi. Et finalement, elle est propulsée au premier plan un peu malgré elle, quoi.
Oui, totalement. Alors qu'elle n'était pas du tout préparée, justement. Ce qui fait qu'elle s'attire plein d'animosité.
De tous les côtés, dans sa propre famille, oui. Dans la famille adverse. Voilà. C'est pour ça que je dis qu'à tout niveau, c'est bien, bien tendu. Mais justement, c'est ce qui fait que la lecture aussi est très, très passionnante parce qu'il y a cette tension qui se relâche pratiquement pas de bout en bout. Il y a des petits moments où on se dit, il y a quand même des moments de... Il y a des bouffées d'oxygène, des moments où on fait « Oh !» et puis c'est très rapidement suivi de « C'est un petit peu là. C'est, voilà, c'est un peu les montagnes russes tout du long, mais c'est bien, justement, c'est ce qui fait que c'est passionnant à suivre. Et moi, justement, j'avais la dimension dure de l'histoire, ben, ça m'a vraiment happée.
J'ai pas entendu ton dernier mot.
Ah, je disais que la dimension dure de l'histoire m'avait vraiment happée.
Ah, c'est gentil, merci.
Voilà. Ton dernier mot, c'était difficile de comprendre. Et au final, et ben dans l'histoire, donc les entraves de l'hiver de Jenny, et ben là, on est aussi sur une histoire comme ça qui a toutes les allures d'un conte de fées. Sauf que il y a deux malédictions si j'ai envie de dire. Il y a celle de Jack Frost a évoqué Ginny tout à l'heure. Sa malédiction elle n'est pas triste quand même, hein, parce que bon, en fait il a deux vies, et encore c'est une demi-vie que quelques semaines par an. Puis après il retourne en hibernation et c'est terminé pour lui jusqu'à l'année suivante. Donc c'est un immortel mais qui vit même pas à moitié, quoi. Et la plupart du temps il n'est pas vu des autres personnes, donc il n'a pas du tout d'interaction. Ouais. Et il y a aussi la malédiction de Mathilde. Et ça, moi, c'est ce qui m'a. Enfin, moi, c'est un personnage qui m'a beaucoup touchée personnellement. C'est toute la relation très compliquée qu'elle a avec ses amis et sa famille. C'est pas simple dans les deux cas.
C'est vrai.
Et ça, je trouvais que c'était vraiment intéressant. C'était d'une part donc cette famille en surnombre où les parents et surtout la maman est complètement démissionnaire. Donc ça responsabilise très vite Mathilde, et Mathilde c'est un peu une deuxième maman malgré elle dans l'histoire. Et à côté de ça, elle n'a pas vraiment, enfin elle a des amis, mais les amis franchement ils font un peu dès le début, hein. Il y a des moments de grâce, on se dit ah ils sont touchants, mais quand même beaucoup de moments on se dit. Quand même, pour des amis, ils sont pas très très présents. Enfin, ils sont à côté de la plaque. C'est surtout ça. Ils sont dans leur bulle et je pense qu'ils se rendent pas du tout compte de ce qu'elle vit. Ils sont pas très attentifs.
Oui, ils sont assez imparfaits. Mmh.
Ouais. C'est réaliste en même temps. Je trouve que c'est ça qui est bien. C'est que ça c'est pas une vision idyllique. Non, ça peut montrer que parfois, ils peuvent avoir des moments comme ça où ils sont très touchants et on sent que ils aiment Mathilde. Ils ont de l'amitié pour elle. Mais en même temps, voilà, ils ont aussi un côté à côté de la plaque, égoïste, hein, faut quand même le dire. C'est ça aussi, hein, les relations. Donc voilà, ça c'est pour ça que je trouvais que c'était un autre point commun à vos deux histoires que j'avais trouvé vraiment intéressant.
Oui, je voulais pas faire quelque chose effectivement de trop lisse. J'avais envie, un peu comme Virginie l'a dit, d'être le plus réaliste possible. En tout cas. Dans l'aspect des émotions et des relations, et je pense qu'on peut sincèrement apprécier quelqu'un et se dire que malgré tout les comportements ne sont pas toujours adaptés ou ne conviennent pas à ce qu'on en attend d'eux. Et que ça puisse faire mal et que les amitiés sont parfois imparfaites et parfois décevantes, et parfois il se fait que ces déceptions arrivent à un moment où on est plus fragile et où ça fait plus mal peut-être qu'à un autre, quoi. Donc voilà.
Mais voilà, c'est pour ça peut-être que ça touche, parce que ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quand, de sentir ce moment où on est un peu... en tout cas, Mathilde, voilà, il y a des moments où elle se sent un peu invisible, en fait. Elle est là, mais elle n'est pas vraiment vue. Et au final, ça fait un parallèle intéressant avec la propre malédiction de Jack Frost.
Et ça lui rapproche. C'est ça, parce que... C'est ça, ce sont deux êtres en fait infiniment seuls.
Par exemple, chacun allez, ça mettra à nouveau le. Mais beaucoup, beaucoup d'émotions en perspective pour les deux lectures, ça je peux vous le garantir. Là en plus, c'est les deux romans, hein, je peux en parler puisque je les ai lus, hein, donc ouais, je sais de quoi je parle. et je précise que dans le cas de Virginie comme dans celui de Jenny, c'est qu'il y a des suites. Je ne sais pas si Jenny c'est vraiment le terme approprié, mais en tout cas ce sont des sagas, donc des séries Pour Virginie, donc ça c'est La Princesse étrangère, c'est le premier tome, mais il y a un deuxième tome à paraître juin.
En juin numérique et en juillet pour le format papier.
Voilà.
J'ai trop hâte.
J'ai déjà précommandé. J'ai précommandé déjà.
Oh.
J'ai trop hâte.
J'ai qu'un petit tôt.
Et donc là, c'est le Roi solitaire pour un titre du deuxième. Voilà. J'avais complètement oublié tout à l'heure. Je me suis dit, je vais quand même remettre les couvertures de vos livres. Des livres dont on a parlé, mais aussi tant qu'à faire des livres à venir, si je suis autorisée à divulguer les couvertures.
Oui, totalement.
Comme ça, je vais les montrer aussi. Et toi, Jenny, en fait, par rapport à... donc là, les entraves de l'hiver, ça s'inscrit dans un cycle. Parce que c'est pas écrit sur la couverture en
le maître de saison.
Ça, c'est, sur le livre que j'ai, ça, les maîtres des saisons n'apparaissent pas. Mais après, j'ai compris, parce qu'on avait discuté avec toi, et j'ai vu qu'il y avait. Tu m'as même. J'ai pu avoir déjà, moi, c'est en avant-première, le deuxième tome. C'est pas, tu m'as expliqué que ce sont des histoires qui finalement sont indépendantes, mais inscrites dans un même cycle.
C'est ça, exactement. Oui. Ça veut dire que chaque tome, en fait, a un début et une fin, une résolution. En fait, c'est qu'on va avoir un tome par saison. Donc ici, on a commencé avec l'hiver, et puis le prochain, ça sera le printemps, puis l'été, et pour finir, ça sera l'automne.
Oh, il faudrait presque faire un live à chaque saison. Il y aurait matière à chaque fois à faire. Mais le principe est bien sympa. Et c'est vrai que du coup, ça intrigue parce que de se dire, là pour les chimères du printemps, donc c'est au mois de mars, c'est ça?
Oui, et les précommandes commencent demain.
Ah, c'est demain les précommandes? C'est parfait, on est vraiment quel timing, on a un timing génial.
Les précommandes sur la maison d'édition avec offre ou non de dédicaces.
Mais c'est vrai que voilà, moi je suis extrêmement curieuse de voir comment est-ce que donc dans ce cycle là tu vas repartir sur une histoire qui peut se lire indépendamment de celle de Jack Frost et Mathilde, mais c'est vrai que tu préfigures aussi une histoire qui est plus vaste qu'eux, parce qu'il y a des références qui sont faites effectivement aux autres maîtres des saisons. Et... enfin, ouais, moi je trouve que c'est un challenge intéressant d'écriture et je suis vraiment très curieuse. Là maintenant j'ai terminé les entraves à l'hiver, je vais pouvoir m'attaquer aux chimères du printemps.
Oui, et je serais très 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 curieuse d'avoir ton avis sur celui-là.
Oh. Je ne manquerai pas de le faire savoir. Et c'était pour parler un petit peu de vos actualités prochaines. Juste Virginie, je précise que pour les personnes qui voudraient te suivre pour voir d'autres de tes écrits, tu es sur la plateforme Fixia.
Oui, tout à fait, oui.
Voilà où tu publies régulièrement des textes.
Oui, de temps en temps, oui. J'en ai publié une petite nouvelle en fait. Il y a un autre concours qui va commencer bientôt et où je publierai aussi une histoire.
Et là, donc, la lecture, enfin, je veux dire, c'est vraiment un site gratuit pour les personnes qui se posent. On peut vraiment lire les histoires, il n'y a pas d'obligation. Ça peut donner déjà un bel... personnes qui veulent te suivre, voilà. On peut te retrouver. Fixia, donc...
On peut me voir.
Je suis en train d'essayer de retrouver ta fiche sur le...
Virgile.
Oui, je suis en train d'essayer de retrouver quel était le... Merci. Merci. Voilà, Virgile D, c'est ça.
Oui.
Ça va, c'est pas trop personnel de le dire. Je peux faire le lien. Je suis désolée, je suis
en train de
vendre ton identité, là. Mais bon, je me dis pour les personnes qui voudraient te suivre. Hop là. Voilà, sur Fixia. Et Jenny, toi, je ne sais pas si tu as toi-même, en dehors des chimères du printemps, est-ce que tu as d'autres projets sur le feu, des petites choses où on peut te suivre aussi pour les personnes qui sont ici
Pas pour Enfin, pour le moment, ben, je m'attelle à l'été. Hein. L'air de rien, il va bientôt falloir que je le remette à mon éditrice puisqu'elle fonctionne toujours avec un an d'avance.
Ah oui.
Donc, oui, puisqu'on pourra l'avoir en avant-première en novembre déjà de cette année. Donc, il va falloir que... Il ne faut pas trop que je traîne. Donc
là, je suis tentation.
Tentation, ok. Sinon, pour les projets, rien de d'officiel ou de concret pour l'instant. Pour le moment, ce sont des petites bouteilles lancées à la mer. Et donc, si on peut m'envoyer des bonnes ondes pour que je puisse annoncer des bonnes nouvelles, je prends. Que ce serait vraiment de très, très, très bonnes nouvelles. Mais voilà, donc on va voir. Pour le moment, c'est vrai que le prochain projet à sortir officiellement, ce sera l'été. Et on verra pour la suite, on sait.
Bon, bah alors on croise fort les écharpes pour les futurs projets. Et Virginie, je te relais une question sur un chat de Tchutchut, pas de nom, qui demande si ces couvertures forment un diptyque. En fait, c'est vrai, là j'ai dit que tu avais donc un deuxième tome qui sortait en été, mais tu as un troisième tome en fait qui est prévu aussi, qui conclura la série.
C'est une trilogie, avec les deux premiers tomes hein, qui sont écrits pour l'instant. Non, sur diptyque, je suppose que c'est une grande image, c'est ça?
Ben, disons que ça se fait en deux et que la couverture, effectivement, quand tu mets. C'est vrai que la façon dont les couvertures sont conçues, si on les met côte à côte, ça forme une seule et même image.
Je voulais absolument en fait que les personnages se regardent. Donc j'avais demandé ça. Quand on m'avait demandé ce que je voulais sur mon illustration, j'ai dit je voudrais avoir le personnage féminin et le personnage masculin qui se regardent pour le tome 1 et le tome 2, avec en arrière-plan des éléments importants de l'histoire, enfin du tome en tout cas. Donc voilà, c'est pour ça que l'un en face de l'autre, ça donne une impression d'ensemble.
Mais il y aura...
Avec des couleurs...
Mais il y aura un troisième tome avec une troisième couverture donc qui
vient voilà. Pas de la voix.
Et oui, Kex, je confirme, les couvertures elles sont chouettes. Et d'ailleurs,
sont très très belles.
Ça, à ce niveau-là, c'est aussi quelque chose que vous avez en commun toutes les deux, c'est que vous avez de très jolis livres objets.
Oui, voilà. La chance, beaucoup de chance.
Voilà, ça c'est
en effet.
Ce qui m'a fait un joli visuel pour mon annonce.
Mais pour l'une comme pour l'autre, en fait, on a eu beaucoup de chance aussi. On nous a demandé notre avis pour la couverture,
ce
qu'on voulait, et voilà.
C'est vrai, c'est vrai.
Oui, et c'est vrai que je me rends compte qu'il est déjà 15h25 et j'avais encore tellement...
Eh oui.
Ça passe vite. Bon, alors, oui, c'est vrai que je m'étais dit, ouais, si on a le temps, on pourrait toujours essayer de parler de la façon dont ça s'est passé chez vos éditeurs respectifs, mais bon, là, je pense que ça ferait un petit peu long. Pour Jenny, comme de toute façon j'ai prévu d'organiser une fois un Discord avec ton éditrice Plume Blanche, voilà, je pense que ce sera l'occasion à ce moment-là. D'ailleurs, si tu veux à cette occasion revenir pour y participer, on en parlera à ce moment-là des coulisses de l'édition et de la façon dont ça s'est passé. Donc, je pense que je ferai un Discord vraiment dédié à Plume Blanche un jour prochain. Et toi Virginie, tu seras toujours la bienvenue sur mon Discord, quoi qu'il arrive. Là, tu sais que voilà, t'as ta place au chaud ici.
Merci Christelle.
Si jamais, pareil, ton éditrice chez Bookmark, une fois, souhaite venir faire quelque chose ici, carrément moyen, comme ça on peut un peu évoquer la façon dont ça se passe, et je suis sûre qu'il y a plein de personnes que ça va intéresser.
Ça va, je te transmettrai, merci beaucoup.
Avec grand plaisir. En tout cas, je vous laisse, si jamais vous avez encore quelque chose que vous souhaitiez aborder, Virginie et Jenny, je vous laisse la parole, et si vous avez un petit mot de la fin.
Merci beaucoup d'être venue, nous écouter, et parler de notre livre, et merci à Christelle de nous avoir invité.
Surtout.
Oui.
Et non, effectivement, je confirme. Hein, mais un grand, grand merci à toutes les personnes. Là, je dis qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient connectées sur le vocal. Et en plus, tout le monde a été très sage. ils sont très, très... mais franchement, il y a une très, très belle ambiance à chaque fois ici. Ils sont attentifs. Ils sont vraiment très attentifs. Et je crois que vraiment, ça... Vous leur avez fait passer un bon moment. Quoi qu'il arrive, je vérifie. J'ai bien enregistré. C'est maintenant qu'elle vérifie. C'est... Oui, ça va, je viens d'enregistrer la rencontre.
Bon, on recommence.
J'ai un doute affreux pendant un instant. J'ai bien enregistré la rencontre, donc je vais la mettre sur le replay de mon site. Et, je vous passerai le lien Virginie Jenny si jamais vous voulez le rediffuser. Un grand, grand merci à vous deux. Moi, j'ai passé un très bon moment en votre compagnie et j'ai passé un très bon moment en la compagnie de vos livres. Ce sont des lectures qui m'ont bien, bien marqué, qui m'ont fait du bien. Et j'espère qu'il y aura plein de personnes maintenant qui vont se ruer sur les livres et qui vont passer de l'autre côté aussi parce que ça vaut vraiment la peine. Moi, je recommande chaudement, froidement.
Froidement.
Bah oui, ça se fait pas, mais bon, en même temps, c'était dans le thème. Je peux pas la placer.
C'est complètement.
Un grand merci à toutes les personnes qui étaient présentes sur le vocal, sur le chat. Je fais un grand, grand coucou à tout le monde. Et certainement une prochaine fois, j'espère.
Oui. Bientôt.
Avec plaisir. À bientôt.
Voilà, vous serez toujours les bienvenus.
Merci, merci.
Je vous souhaite une bonne continuation d'après-midi et à une prochaine fois. Un gros bisou.